Regardons ensemble Tite, l'épître de Paul à son jeune pasteur. Encore une fois, Tite vient dans la Bible après 2 Timothée, mais en fait, Tite a été écrit plutôt à la même époque que la première lettre à Timothée. Et on retrouve pas mal des thèmes. Et dans ces épîtres, on voit que le plan de Dieu pour sauver le monde, c'est pas Internet, c'est pas la page imprimée, c'est l'Église locale. Il s'agit, dans les deux cas, que ce soit aussi bien Timothée que Tite, de s'occuper de l'Église locale, de la fortifier. Pourquoi ? Parce que c'est là que ça se passe. On peut avoir des grands principes d'amour et de bienveillance pour le monde, mais c'est dans le quotidien, c'est lorsqu'on a justement des désagréments, lorsqu'on a des disputes, que l'on peut montrer qu'est-ce que c'est que le vrai pardon. C'est lorsque on a des difficultés qu'on peut s'encourager les uns les autres, qu'on peut fortifier quelqu'un qui est dans le deuil. C'est là qu'on peut amener sa contribution comme une pierre vivante. Et donc l'importance d'être engagé dans une église locale, pas 2 ou 3 ou 4, ou recevoir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être sectaire, c'est ce que j'ai essayé de faire passer. Nous avons des contacts avec les autres églises, nous participons à la pastorale, nous avons des personnes qui viennent ici nous parler d'autres aspects de la vie chrétienne, etc., comme l'église persécutée dimanche dernier. Mais il faut qu'il y ait cette famille qui est tellement importante à l'épanouissement d'un enfant, des enfants que nous sommes quand nous venons à Christ. Je vais lire à partir du verset 5 du premier chapitre de l'épître à Tite, la lettre à Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni improguin, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Paul donne une mission à Tite, c'est d'aller rétablir, d'aller remettre en ordre ce qui n'avait pas été fini, ce qui restait à régler, et ça passait par l'établissement d'anciens, c'est-à-dire de responsables. Un autre mot qu'on trouve dans certaines versions, c'est le mot d'évêque, ça veut dire simplement surveillant, celui qui est chargé du bien-être, de la croissance, de la nourriture, de régler les problèmes dans un groupe de chrétiens, dans une église locale. Et il utilise le mot ancien évêque. Par ailleurs, il y a le mot pasteur ou le mot de faire paître. Un pasteur, c'est celui qui fait paître. Le pasteur, c'est pas celui qui vous envoie paître. Ça, pour ceux qui connaissent l'expression en français, c'est quelqu'un qui vous aime. S'il n'y a pas d'amour, à ce moment-là, on peut retourner à ses études ou faire autre chose. Mais il décrit donc, on l'a déjà vu il y a 2 semaines, donc je ne vais pas revenir, mais une chose, c'est qu'il termine au verset 9, il faut être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, c'est-à-dire d'encourager selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Et puis au verset 10, il nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Amen. Notre église d'origine, c'est l'église de Seattle, où Nancy et moi avons rencontré le Seigneur. Nous aurons la visite des représentants de l'Église au mois de juin pour célébrer le 20e anniversaire du début de Calvary Chapel ici. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà et les apprécient. Ce qui avait toujours frappé Nancy et moi aussi, c'est que Cathy Taylor, qui est la femme du pasteur, parler avec Nancy sur la vocation de pasteur. Et Cathy disait qu'en fait, elle priait pour que son fils ne soit jamais pasteur. Ses fils ne soient jamais pasteurs. Alors, si elle est venue vous enseigner, mesdames, il y a quelque temps, en mois de mars dernier, si elle disait cela, c'est pas parce que le métier de pasteur est un métier qui n'a pas une grande importance et une belle valeur. Jacques disait, si on veut être enseignant, c'est une belle responsabilité, une belle vocation. Mais c'était son cœur de maman qui s'écriait ainsi parce qu'elle connaissait les souffrances du responsable d'église, justement dans ces cas où on doit appliquer un amour sévère par amour. C'est une belle vocation, mais c'est pas pour ceux qui sont timides. C'est pas pour ceux qui cherchent à tout prix à être populaires. C'est pas à tout prix pour ceux qui aiment que tout se passe bien. Cette église, c'était une église des premiers temps. On pense que c'était dans les années, entre l'année 50, au tout début de quelques dizaines, vingtaines d'années après, peut-être un peu plus, après la résurrection de Jésus. Les gens ont entendu Jésus leur parler. Mais déjà, il y a des problèmes dans l'Église. Encore une fois, Satan, il a la haine pour l'Église. Et Paul nous invite souvent à ne pas ignorer les stratégies de l'ennemi. Et déjà, il y avait non seulement des indisciplinés dans l'Église, mais il y en avait beaucoup. Et on a dit qu'il avait sans doute choisi Tite parce que Tite était moins émotionnel ou moins fragile psychologiquement que Timothée. Et on l'a vu ça en lisant les passages relatifs à Tite dans le livre des Corinthiens, où Paul était encouragé par la venue de Tite. Tite, c'était un gars qui était capable de s'opposer à des choses qui n'étaient pas justes. Et suivant les personnalités, je connais des amis pasteurs, eux, ils sont prêts à être en conflit tout le temps. S'il n'y a pas de conflit, c'est qu'ils pensent que le Seigneur ne les utilise pas. Moi, j'ai un tempérament plus paisible. Mais déjà, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs. Il faisait l'opposition entre les responsables d'église qu'il allait mettre en place. Et là, il nous a donné la description dans le passage 5, des versets 5 à 9, des caractéristiques qui rejoignent celles qu'il a données dans 1 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 7. Le responsable d'église doit être quelqu'un qui a un caractère honnête, honorable devant Dieu, quelqu'un pour qui on ne peut pas dire de mal. Et là, Paul envoie Tite en lui disant « Va mettre en place des gens de qualité parce qu'il y a des gens qui prennent la responsabilité qui ne sont pas de qualité. Il y a des indisciplinés. Indisciplinés, ça veut dire des rebelles. Alors, c'est vrai que quelque part, nous sommes tous des rebelles. Le péché qui est entré dans la race humaine fait de nous des rebelles. C'est même drôle pour, si vous voulez que des gens touchent à un mur, vous mettez un panneau, un signe, ne pas toucher peinture fraîche. Et les gens vont aller voir si c'est vrai. Donc ils vont aller toucher. C'est dans notre nature de contester. Là, on va voir que les Crétois avaient une certaine réputation, les habitants de la Crète. Ce qui est le plus surprenant, c'est que Paul a l'air de dire que c'est vraiment le cas. Mais surtout en France, on est rebelles. On est les révolutionnaires. On est ceux qui rouspètent. On est ceux qui se moquent. Ceux à qui on ne peut pas dire quelque chose sans qu'ils demandent « et pourquoi ?» Cette rébellion, Paul en parlait dans la lettre aux Romains, et c'est un de ces passages surprenants, lorsque, au premier chapitre, pour dire que, en fait, tous les hommes sont sous le coup du péché, ceux qui sont païens, ceux qui sont religieux, ceux qui sont bien pensants, il parlait de l'universalité du péché et il donnait une liste des péchés communs à la race humaine, aux hommes. Il disait au verset 29 du chapitre 1 de Romains, « Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Oh, c'est pas bien grave ça. Sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié, etc. » J'ai toujours été frappé de la présence dans cette liste de gros péchés, de grosses choses indignes, qui est l'expression « rebelle à leurs parents ». Et c'est la même notion, indiscipliné, c'est notre fierté qui ne veut jamais se soumettre. Souvent, on donne dans les écoles bibliques, chrétiennes, pour les jeunes filles, on leur dit que d'apprendre à se soumettre à l'autorité de l'école, c'est pour garantir leur bonheur marital. Si vous n'êtes pas fichu de vous abaisser, devant vos parents, vous n'allez pas être fichu de vous abaisser devant vos employeurs, si vous faites l'armée devant vos responsables, vos officiers, etc., etc. Vous allez être le rebelle et vous allez surtout finir par être un rebelle à Dieu. Il n'y a rien d'indigne, il n'y a rien d'immoral dans le mot de soumission. Le mot soumission, c'est un beau mot. Les gens veulent partir en mission, mais ils ne veulent surtout pas aller à la soumission. Dieu a institué des rôles dans la famille, dans la société. Si nous acceptons ces positions sans penser que c'est une atteinte à notre intégrité, à notre valeur propre, mais que c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de la famille, c'est pour le bien de l'armée, c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien d'un pays. Si tout le monde fait ce qu'il veut, c'est la pagaille. Amen. Dans la famille, je sais que ce n'est pas populaire avec le mouvement féministe. Et le mouvement féministe, il a peut-être parmi les causes qui l'ont amené à être si virulent, le fait que les hommes ne respectaient pas la Bible non plus. Mais dans le mariage, Dieu a choisi l'homme pour être au-dessus de la femme. Pas pour la brimer, mais pour l'aimer comme Dieu a aimé l'Église. Ça, c'est dans le domaine du mariage, dans le domaine des autorités, dans le domaine de l'Église. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, j'aimerais bien dominer les gens, je vais devenir pasteur. J'ai senti un appel de Dieu, et en même temps, quand je lis la parole, je vois que s'il n'y a pas un respect de l'autorité du pasteur, ou des anciens, ou du bishop, ou de l'évêque, comme on dit en anglais, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et Dieu cherche des bergers qui ont de l'amour pour les brebis. Et ceux dont il est question, parce qu'il n'y avait pas de bons bergers, certaines personnes s'étaient mises en position d'autorité et ils étaient indisciplinés, ils étaient de vains discoureurs et des séducteurs. Des gens peuvent parler très bien, peuvent avoir des dons pour s'exprimer, mais ce qu'ils disent, ça peut être vide, ça peut être vain. Et pour moi, si ce n'est pas en accord parfait, autant qu'on puisse en juger, et là il y a bien sûr de la marge. Mais si ce n'est pas en accord avec la parole, c'est vain. Je pourrais vous parler de sociologie, de psychologie, d'hématologie, de traumatologie, de tomatologie pour les salades. On peut parler à ne plus en finir. Il suffit de voir les débats à la télévision. Beaucoup d'air est brassé, mais si ce n'est pas en accord avec la sainte doctrine, ça ne sert de rien. Ce sont aussi des séducteurs, un peu comme George Clooney. Non, séducteur, c'est dans le sens où ils vous trompent, ce sont des trompeurs. C'est ça ce que ça veut dire, séduire. Vous trouvez un jeune homme séduisant, c'est pas une vraie qualité en soi, parce que ça veut dire qu'il vous attire là où il veut que vous alliez. Alors, si vous voulez dire par là qu'il est beau et qu'il vous plaît, c'est une autre chose. Mais ces faux prophètes, ces faux enseignants, ces faux bergers, ils parlaient bien, mais ils étaient rebelles à la vérité. Ils étaient rebelles à l'autorité. Et ça, c'est une chose importante aussi. Vous dites, Pierre, il est tout seul, là, en fait, il dit ce qu'il veut. Mais c'est pas tout à fait vrai. heureusement, et Dieu merci. D'abord, j'ai un conseil légal, mais j'ai aussi des personnes qui me connaissent depuis longtemps et qui sont à même me dire « Explique-nous pourquoi tu fais ça ?» Des anciens, mais des hommes qui ont une grande maturité dans le Seigneur sont à même de voir ce que je fais, ce que je dis, ce que j'enseigne. Je participe à une pastorale avec d'autres pasteurs de la ville et de la région. S'ils viennent à savoir que je commence à enseigner des choses bizarres, que je deviens un peu comme un gourou, ils en entendront parler, ils m'en parleront directement. Si je ne me repens pas, si je ne me corrige pas, ils en parleront aux autorités de l'Église qui nous envoie. Plusieurs d'entre vous connaissent Wayne Taylor. Si vous pouvez prendre, je peux vous donner son numéro de téléphone. Vous l'appelez et vous lui dites, il y a Pierre, il a pété les plombs, il commence à faire n'importe quoi. Nous sommes associés, nous faisons partie d'un mouvement d'église. Le réseau FEF, la Fédération évangélique de France. Il y a 3-4 ans, le secrétaire général était venu ici pour une retraite. Il nous avait enseigné, il avait vu l'église, il avait vu des baptêmes. On n'est pas tout seul. On a toujours, quoi qu'on fasse, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est une bonne chose. Sauf si on est rebelle et qu'on dit, c'est moi le chef et tous les autres sont dans l'erreur et je veux plus être en relation avec aucune autre groupe, aucune autre personne. Ça, c'est un signe dangereux. Si vous entendez parler de ça, c'est comme un drapeau rouge qui devrait s'agiter devant vos yeux et qui devrait vous mettre en garde de suivre quelqu'un qui refuse toute subordination. Même si dans certains mouvements, l'Église est autonome, au lieu d'être une agence ou une franchise, suivant les gouvernements, suivant les dispositions légales, nous devons être constitués, nous, en association indépendante, loi de 1905. Mais c'était des indisciplinés. Il dit que c'était surtout parmi les circoncis. Alors ça, c'était donc les circoncis, c'était donc des personnes d'origine juive, des personnes juives. Dans le livre des Actes, au tout début du livre des Actes, on voit que lors de la Pentecôte, il y avait des gens qui venaient de Chypre. Donc l'Église était en relation avec Jérusalem, il y avait des juifs qui habitaient là-bas. Et c'était un problème surtout avec ceux qui venaient de la foi juive. Pourquoi ? Parce que la tendance était de dire que oui, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ seulement, mais de revenir aux exigences de la loi juive, comme la circoncision, comme le fait de s'abstenir de certaines nourritures, alors que ces choses avaient été abolies. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, il y a une réunion à Jérusalem et là, il avait été décidé par le conseil des anciens, qui était un peu présidé par Jacques, qu'en fait, il était tout à fait OK d'être chrétien sans être d'abord juif. Mais ça restait une tendance naturelle de dire « c'est bien d'être sauvé, mais quand même, il devrait se conformer à nos traditions », alors que Jésus était venu justement pour libérer de tout ce qui était tradition humaine ou tradition religieuse. Ces personnes, verset 11, il dit « il faut leur fermer la bouche ». Dans notre société du politiquement correct, on a des fois du mal à parler avec autant de fermeté de choses qui devraient être condamnées ou reprises. quand on parle de faux enseignements, on va penser par exemple à l'enseignement de la doctrine de la prospérité. Paul dirait de cela, ce sont des menteurs, des méchantes bêtes, des ventes paresseux, des souillés, des incrédules, et le dernier verset, des odieux, des rebelles, des incapables d'aucune œuvre bonne. Et là il dit, ces gars-là, il ne faut pas être gentil avec eux, il faut leur fermer la bouche. Il ne faut pas être gentil avec eux, il dit, il faut surtout leur fermer la bouche, les museler. C'est le mot qu'on met, qui désigne la courroie en cuir, l'espèce de garde-bouche qui ferme la bouche d'un chien dangereux. Il dit, il faut leur fermer la bouche. Pourquoi ? Parce qu'ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Attention, si vous n'êtes pas dans une église, entre guillemets, qui a pignon sur rue, c'est pas une référence nécessairement, mais les églises de maison, on a commencé comme ça, et je sais que c'est comme ça qu'on peut commencer, mais il faut faire attention à quelqu'un qui vient se joindre à votre petit groupe et qui dit « je vais venir vous enseigner » parce qu'ils n'ont pas l'exposition publique qui fait qu'ils vont pouvoir, on va pouvoir les reprendre ou contester ce qu'ils disent. Et malheureusement, pas dans l'église, mais il y a un an et demi, on a connu une famille qui faisait des réunions chez eux parce qu'ils s'étaient disputés avec l'église. Et il y a une femme qui s'est dite inspirée par Dieu, prophétesse, et qui a commencé à prendre une place de plus en plus grande dans le petit groupe de maison, au point qu'elle a causé des terribles tourments à la famille. Le couple qui la recevait, je ne sais pas s'ils ont presque divorcé, mais c'était très, très, très douloureux. Et cette personne, elle pouvait raconter ce qu'elle voulait, elle pouvait dire qu'il fallait faire comme ça, elle s'immisçait dans la vie des gens. Elle enseignait ce qu'il ne fallait pas pour un gain honteux. Elle collectait la dîme pour elle. Et les gens étaient tellement aveuglés par sa belle parole et son aplomb, son charisme, au sens d'attraction, de pouvoir attirer, d'avoir une influence sur les autres. Et souvent, ça se passe justement dans le cadre des familles. Dans une église, c'est plus difficile parce qu'il y a des gens qui vont dire « Attends, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? C'est pas possible. » Et ils se font ça souvent par intérêt financier. Dans certains pays, être pasteur, c'est être riche. Dieu merci, le Seigneur pourvoit à nos besoins, nous vivons bien par rapport à... Mais ce n'est pas la façon de devenir riche rapidement, en France. Ou même à long terme. Ce n'est pas le but et ça ne devrait jamais être la motivation de l'homme qui vous enseigne la parole de Dieu. Alors, il y a maintenant cette histoire des Crétois qui étaient réputés pour être des menteurs, des méchantes bêtes, des ventres paresseux. À tel point qu'en fait, il y avait un mot qui avait été formé en grec où on disait crétiser. Crétiser, ça voulait dire mentir. Et ces Crétois, sans doute, devaient cette réputation au fait qu'ils voulaient, pour attirer du monde ou pour se grandir, ils disaient qu'en fait, ils avaient chez eux le tombeau de Zeus. Mais Zeus étant le dieu des dieux, c'est un peu bizarre qu'il soit mort et qu'il soit enfermé dans un tombeau, n'est-ce pas ? Donc on disait que les Crétois, ils racontent n'importe quoi, ils sont mauvais. Ils pensent qu'à manger et à dormir, ventre paresseux, ils ont la panse bien remplie. Et Paul dit, ce témoignage est vrai. C'est un peu curieux. Il y a des débats qui peuvent être lancés sur des sujets un peu secondaires ou qui n'ont pas d'importance. Mais ce prophète dont il est question, c'était en fait quelqu'un qui vivait au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelait Épiménide, et il était crétois. Et la question de logique, pour ceux qui cherchent à penser juste, est-ce qu'on peut croire un crétois qui dit que tous les crétois sont menteurs? Ah, je vous laisse réfléchir à ça, mais ça c'est en dehors du sujet. Mais sachez qu'il y a vous pouvez aller sur Wiki, il y a des pages entières de logique qui examinent ce problème intéressant au niveau mathématique, mais pas au niveau moral et spirituel. Il s'attachait à des fables judaïques. Il parlait pas des choses essentielles, il parlait des choses, par exemple, il y a les traditions juives, les traditions rabbiniques ont des tas de détails. Par exemple, le nom d'Abraham, si on enlève les voyelles qui n'étaient pas marquées, qui étaient marquées en dessus par les Masorètes, ceux qui recopiaient la Bible, il y a des consonnes et on peut attacher à chaque consonne une valeur numérique. Les chiffres en hébreu sont des consonnes. Et pour le nom d'Abraham, c'était, si on prenait les B, R et M, et le H, qui est aussi une consonne, Abraham, on arrive à 318. Et il disait qu'en fait, c'est pour ça que c'était 318, parce qu'il avait 318 serviteurs. Quand il se battait, il avait 318. Intéressant peut-être, mais ça sert à rien, ça nous enseigne rien. Ça, c'était des fables judaïques, des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il agite ensuite ce verset « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. » Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Ça, souvent, ce verset est utilisé à contresens par des gens malhonnêtes qui disent que je peux faire n'importe quoi du moment que mon cœur est pur. C'est pas grave. Parce que tout est pur pour ceux qui sont purs. Et moi, je suis pur, donc je peux faire n'importe quoi et ça sera pas mauvais. Mais encore une fois, c'est ce qui vient du cœur qui souille. Tout est pur pour ceux qui ont un esprit pur devant Dieu. Je parlais avec quelqu'un récemment qui disait qu'il voyait parler d'une autre personne et toutes les plaisanteries de cette personne avaient des connotations déplacées. Et cette personne, si on a l'esprit souillé, après on va avoir des tas de souillures partout. Ça va servir un peu comme de lunettes ou de filtres. Et donc, si on n'a pas vraiment une foi réelle en Christ, si on n'est pas plein d'amour, mais si on est souillé, si on voit le péché, si on participe au péché, si on entretient des péchés cachés ou publics, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va voir, ça va être affecté par cette vision des choses. Rien ne va être pur. Donc, encore une fois, la caractéristique essentielle des anciens prêtres, pasteurs, évêques, c'est la qualité du caractère devant Dieu. Un ancien doit savoir aussi enseigner, mais ça s'apprend, ça se cultive. Mais la personnalité, le caractère d'une personne, c'est beaucoup plus difficile à changer. Et donc, quand on appelle quelqu'un en place pour avoir des responsabilités dans une église, il faut que ses qualités soient déjà là. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience est souillée, non seulement leur esprit est coupable, mais ça affecte leur raisonnement. Leur raisonnement n'est plus sain. Et verset 16, ils font profession de connaître Dieu, Alors on pourrait penser que c'est ils font de leur métier de connaître Dieu, ça veut dire ils professent, ils disent, ils affirment qu'ils connaissent Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et puis ce jugement terrible, ils sont odieux, rebelles, ça revient encore une fois, ils sont incapables d'aucune œuvre bonne. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils fassent quoi que ce soit de bien. Et là aussi, c'est un avertissement, c'est, encore une fois, c'est des épîtres de Paul pour des pasteurs, mais ça s'applique à tout le monde, parce que vous voulez savoir, être sûr que le pasteur qui est votre pasteur ou que vous suivez correspond à ces caractéristiques. On peut toujours dire qu'on connaît Dieu, qu'on a fait des hautes études, qu'on a fait des tas de recherches. Mais ce qui compte, c'est pas ce que nous disons de notre bouche, c'est ce que nous vivons de notre vie. Est-ce que ma parole et mes actes sont en harmonie? Et souvent, ces personnes mal intentionnées, ces responsables autoproclamés, souvent, ils font profession de connaître Dieu, mais leurs œuvres disent qu'en fait, ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils sont incapables d'aucune œuvre bonne. C'est dur, c'est lourd. Et donc, Paul a trouvé en Tite quelqu'un qui va pouvoir aller mettre de l'ordre. Et on va voir dans la reste de cette lettre, assez courte en fait, et il va nous montrer comment l'Église peut être une bonne Église. Comment chacun a un rôle à jouer, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les anciens, ceux qui sont maîtres, ceux qui sont esclaves, les employeurs, les employés. Parce que Dieu veut par sa grâce faire de l'Église quelque chose de beau. Et le premier verset du prochain chapitre résume ce qu'il vient de dire au chapitre 1. Il dit « Pour toi ». Dit ce qui est conforme à la saine doctrine.